13 mars 1983, session de Père Marie-Dominique Philippe à Curière sur la charité, première conférence.
Nous allons continuer ce traité de la charité de saint Thomas. Nous étions arrivés à la question 26, c'était l'ordo caritatis, l'ordre de la charité. Il faut bien comprendre la signification de cet ordre de la charité. C'est de comprendre comment cet amour, qui est un amour divin, qui est un amour qui implique le point de vue de la sagesse divine, comment cet amour en nous va ordonner profondément notre capacité d'aimer. Et c'est ce que recherche le théologien. Vous voyez, quand saint Thomas pose la question, y a-t-il un ordre dans la charité? Il ne faut pas l'oublier. Le roi m'a fait entrer dans le cellier, il m'a ordonné en moi la charité. Et c'est cette ordina vit in me caritatem. Alors je vous avais dit, n'oublions pas que c'est le texte de la Vulgate et des Septante, et que ce n'est pas le texte tel que nous le donnons aujourd'hui. Tel que nous le donnons aujourd'hui, nous ne prenons pas ce point de vue de l'ordre. Ce texte ne veut pas dire cela. Je dis ça, c'est parce que vous consulterez vos Bibles, consultez la Bible de Jérusalem, consultez la Bible d'Ostie, et vous ne trouverez pas cette traduction-là. Il y a, à la Pierre qui vire, une nouvelle édition de la Bible qui se nomme Bible chrétienne. Et ceci pour reprendre la traduction de la Septante et de la Vulgate avec tous les textes des Pères de l'Église. Pour nous montrer que tous les textes de l'Église, justement, s'appuient sur la traduction des Septante et de la Vulgate, et non pas sur la traduction qu'on nous donne aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que la traduction qu'on donne aujourd'hui est mauvaise. Ça veut tout simplement montrer que, de fait, c'est intéressant, du reste, au point de vue de notre foi, de fait, de voir que si le texte premier était en hébreu, le texte ensuite a été traduit en grec et septante, puis a été traduit en latin. Or, toujours, quand on passe d'une traduction à un premier texte, il y a forcément des petites variantes. Oui. De sorte qu'on se trouve aujourd'hui, il faut bien comprendre, on se trouve aujourd'hui en face du texte premier, et les exégètes d'aujourd'hui, on comprend, ça fait partie un petit peu de l'attitude exégétique, veulent prendre le texte premier, qui est le texte hébreu. Et la traduction se fait ordinairement sur ce texte des Masorètes. Puis alors, les pères de l'Église, eux, avaient au contraire, ou les Septante, ou le point de vue de saint Jérôme, le texte latin. Alors c'est intéressant parce que ça fait montrer qu'il y a des modalités différentes. Alors au point de vue de notre foi, l'Église a considéré toujours, elle l'a dit, que le texte des Septante et le texte de la traduction de saint Jérôme étaient inspirés. Donc il y avait eu un secours de Dieu particulier pour considérer que cette traduction... Tandis qu'on ne peut pas dire que les traductions en langue française sont inspirées. Vous pouvez aimer mieux la traduction de Ostie, la traduction de la Bible de Jérusalem, mais ce n'est pas inspiré. Vous voyez ? Le texte qui fait autorité, c'est Saint-Jean, la Vulgate, les Septante et le texte premier hébreu. Je dis ça simplement à titre de précision. C'est intéressant parce que toute cette question est commandée par cela. Mais même indépendamment de ce titre, indépendamment de ce texte de du Cantique des Cantiques, on pourrait comprendre, et ce que saint Thomas dit lui-même dans le corps de l'article, qu'il y a nécessairement dans la charité, puisque Jésus lui-même lit deux préceptes de la charité dans un seul précepte. Aimer Dieu, aimer le prochain. Alors comment expliquer qu'il y a la dualité et l'unité dans ce précepte unique d'amour? Et une fois qu'on a compris comment ces deux préceptes sont un, quel est l'ordre qu'il faut regarder? Est-ce que c'est d'abord aimer Dieu? Est-ce que c'est d'abord aimer prochain? Est-ce que d'abord nous aimer? Puisqu'il y a les trois objets de la charité. Et au fond, toute cette question est sur ce point de vue-là. Vous voyez, alors, nous avons vu précédemment, d'abord, y a-t-il un ordre dans la charité? Saint Thomas précise, il y a un ordre dans la charité. Faut-il aimer Dieu plus que le prochain? On nous montre que l'amour porte d'abord sur Dieu, et si on aime le prochain, c'est parce qu'on aime Dieu. Même si le prochain est visible, quelquefois, ça nous aide, quelquefois, c'est plus difficile. Mais bon, ça dépend, parce que c'est pas toujours plus facile. Mais on aime le prochain parce qu'on aime Dieu. Donc là, il y a un ordre dans les motifs de la charité. L'article 3, l'homme doit-il en charité aimer Dieu plus que lui-même? Alors ça, c'est montrer que, de fait, nous nous aimons nous-mêmes parce que nous aimons Dieu. Et l'article 4, on était resté, l'homme doit-il s'aimer lui-même en charité plus que le prochain? Le saint égoïsme. Vous voyez bien comment on pourrait interpréter ce point de vue-là. Eh bien, saint Thomas va préciser, donc, je prends tout de suite le 7 contrat. Cependant, il est dit dans le Lévitique et en saint Matthieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Diliges proximum tuum, sicut te ipsum. D'où l'on peut conclure que l'amour de l'homme pour Dieu, pour lui-même, est comme le modèle de l'amour qu'il doit avoir pour le prochain. Or, le modèle l'emporte sur la copie. C'est exemplar potius quam exemplatum. L'homme doit donc s'aimer lui-même en charité plus que le prochain. Alors, voici le texte de saint, voici l'argumentation théologique. Il y a deux éléments dans l'homme, sa nature spirituelle et sa nature corporelle. On dit que l'homme s'aime lui-même lorsqu'il aime selon sa nature spirituelle, comme nous l'avons dit précédemment. Et sous ce rapport, l'homme est tenu de s'aimer après Dieu plus que quiconque. Vous voyez, ordo caritatis. En effet, comme nous l'avons vu plus haut, Dieu est aimé comme le principe du bien sur lequel est fondé l'amour de la charité. L'homme s'aime lui-même en charité parce qu'il participe à ce bien. Quant au prochain, il est aimé parce qu'il est lui-même associé dans cette participation. Or, cette association est un motif d'amour en tant qu'elle implique une certaine union relativement à Dieu. Par conséquent, de même que l'unité l'emporte sur l'union, de même participer soi-même au bien divin est un motif d'aimer qui l'emporte sur le motif d'aimer qui vient de ce qu'un autre nous est associé dans la participation à ce même bien. Voilà pourquoi l'homme doit s'aimer lui-même par charité plus que son prochain. La preuve en est que l'homme ne doit pas, pour préserver son prochain du péché, encourir lui-même le mal du péché qui l'écarterait de la béatitude. Vous voyez, c'est une question d'ordre dans la participation à l'égard du bien divin. Il faut comprendre que tout le mystère de la charité repose sur le fait que Dieu nous communique sa propre bonté.
Et parce qu'il nous communique sa propre bonté par le mystère de la grâce, nous sommes appelés à la même béatitude que Dieu. Nous sommes appelés au même amour. Parce qu'il y a de fait participation formelle, disent les théologiens, participation de la bonté de Dieu. Et nous aimons le prochain à cause de cela. Or, pour aimer le prochain à cause de cela, il faut que nous participions nous-mêmes à cet amour et à cette bonté. Donc, ce qui est premier, c'est ce don que Dieu nous fait de son amour. Vous voyez, faites le petit schéma si vous voulez, vous verrez tout de suite. Et vous comprendrez tout de suite ce que saint Thomas souligne là. Dieu est source. Source de toute bonté. Ceci est vrai du Dieu créateur. Dieu est source de toute bonté. Quand il s'agit du mystère de la grâce, il est source de sa bonté. C'est-à-dire que c'est sa nature elle-même qui nous communique, sa propre bonté, la bonté du mystère même de la très sainte Trinité, la bonté du Père à l'égard du Fils, la bonté du Fils et du Père à l'égard de l'Esprit Saint. C'est donc sa bonté propre qui nous communique. L'homme, donc, si vous voulez, l'homme qui participe. L'homme n'était que nous-mêmes, chacun de nous-mêmes, en premier lieu. Il s'agit de savoir si on doit s'aimer plus, on doit aimer plus le prochain que soi-même. Donc, je regarde l'homme moi-même, et puis l'autre. Moi, les deux, trois, les forces. Nous formons une petite trinité quand nous aimons le prochain. Et nous avons une petite trinité dans l'amour du prochain. Or, si je pose le problème de l'amour de l'autre, c'est parce que lui-même reçoit la bonté de Dieu. Ou il est capable de recevoir la bonté de Dieu. Parce que c'est toujours les deux choses. Hein. Ou il a cette bonté de Dieu en lui-même, ou il est capable de l'avoir. C'est comme ça que je dois aimer tous les hommes, l'autre. Mais je ne regarde l'autre de cette manière que parce que moi-même, j'ai reçu cette bonté. Autrement, ça ne se poserait pas le problème. N'allez pas demander à quelqu'un qui ne vit pas de la grâce, ou bien qui ne sait pas ce que c'est que la grâce, le problème de savoir s'il doit aimer le prochain plus que lui-même. Ça n'a de signification que dans la lumière de la participation de la grâce. Donc, ça n'a de lumière que parce que déjà moi-même, je reçois cette bonté en moi-même, que je me pose la question par rapport à l'autre. Donc, la raison pour laquelle je me pose la question pour aimer l'autre, c'est parce que moi-même, j'ai reçu cette bonté de Dieu. Donc, je suis plus immédiatement proche de la source que l'autre, puisque l'autre. Et c'est en ce sens-là que je dois m'aimer de charité avant d'aimer le prochain. Oui, il y a un an, tout simplement parce que moi-même, je reçois la source en premier. Je suis donc en premier lieu, si vous voulez, celui qui est le bénéficiaire de cette bonté de Dieu. Je crois que ce n'est pas très difficile à comprendre. C'est tout simplement le fait de savoir qu'on aime l'autre en fonction qu'il participe à la bonté de Dieu. Et je ne peux me poser ce problème, c'est parce que moi-même, je vis de cette bonté de Dieu. Et donc, si moi-même je vis cette bonté de Dieu, il est évident que, recevant cette bonté de Dieu, je m'aime comme Dieu m'aime. Je dois m'aimer dans la lumière même de l'amour de Dieu. Vous allez mieux comprendre peut-être avec la réponse aux objections. C'est Dieu qui est l'objet principal de la charité. Or, il peut se faire que parmi... C'est la première objection. Or, il peut se faire que parmi le prochain, tel homme soit plus uni à Dieu qu'on ne l'est soi-même. On doit alors aimer cette personne plus que soi-même. Enfin, je suis proche d'un saint. Ça peut arriver. Je suis proche d'un saint. Je suis proche d'un religieux contemplatif qui est appelé par Dieu. Je dis, il aime Dieu infiniment plus que moi. Donc, je dois l'aimer plus que moi. persuadé que c'est le petit raisonnement qu'on fait instinctivement dès qu'on rencontre un saint. On doit l'aimer plus que nous-mêmes,
puisqu'il est saint. Tout porte à croire qu'il y a en lui une participation beaucoup plus profonde de l'amour de Dieu qu'en moi-même.
La réponse de saint Thomas. L'amour de charité ne se mesure pas seulement sur l'objet qui est Dieu,
mais aussi sur le sujet qui aime, savoir l'homme qui possède la charité. Comme d'ailleurs, la mesure de toute action dépend de quelque façon du sujet même qui agit. C'est pourquoi, bien qu'un prochain meilleur soit plus proche de Dieu, cependant, parce qu'il n'est pas aussi proche de celui qui possède la charité que ce dernier l'est de lui-même, on ne peut pas en conclure que l'homme doive aimer son prochain plus que lui-même.
Vous voyez, c'est toujours donc la même question de la proximité par rapport à la participation même de la charité.
Il est évident que je suis le plus proche de cette participation à la charité. C'est moi-même qui reçois cette charité. Donc je dois m'aimer dans
toujours dans la lumière de Dieu, hein, comprenons bien. C'est toujours dans la lumière de la source. C'est pas du tout un amour égoïste. Je m'aime pour Dieu. Je m'aime dans la lumière de Dieu. Je m'aime parce qu'il y a en moi la bonté de Dieu qui me fait vivre la vie de Dieu. L'amour égoïste, c'est de s'aimer soi-même. Hein. C'est tout à fait autre chose, l'égoïsme. C'est de s'aimer soi-même pour soi-même. Et de tout ramener à soi. Tandis que s'aimer d'un amour de charité, c'est aimer dans la lumière de la bonté de Dieu. Je m'aime comme Dieu m'aime. Et comme je m'aime à cause de cette bonté qui est participée, que cette bonté participée est plus proche de moi que d'un autre, j'ai donc là une proximité unique.
Deuxième objection, c'est celui que nous aimons le plus, que nous voulons aussi le plus préserver de tout dommage. Or, par la charité, l'homme consent à subir lui-même du détriment pour le prochain. Selon la parole des Proverbes, celui-là est juste qui, pour un ami, ne prend pas garde au dommage qu'il éprouve. L'homme est donc tenu en charité d'aimer autrui plus que lui-même.
Alors, la réponse. L'homme doit accepter pour un ami des dommages corporels. Et ce faisant, il s'aime davantage selon la partie spirituelle de lui-même. Car cela relève de la perfection de la vertu, qui est le bien de l'âme. Mais quant à encourir un danger spirituel, en péchant lui-même pour préserver du péché le prochain, l'homme ne le doit pas, comme il a été dit. Je peux, pour aider le prochain, pour le sauver, offrir ma vie. Et même c'est dit dans l'Écriture, hein. On doit toujours être prêt d'offrir sa vie pour le prochain. Alors, on argue de ce point de vue-là. Donc, j'aime plus ce prochain que moi-même, puisque je dois offrir ma vie. Alors, saint Thomas dit attention. Offrir sa vie terrestre pour le prochain, mais pas offrir le salut de son âme. Je sais très bien que Catherine de Sienne dit « Je désire être anathème pour mes frères ». Saint Thomas ne connaissait pas Catherine de Sienne. Alors il aurait sûrement mis ça, n'est-ce pas ? Je désire être anathème pour mes frères. Donc si je désire être anathème pour mes frères, ça veut dire qu'au fond, j'accepte d'être damné pour le salut de mes frères. Donc, je dois aimer le prochain plus que moi-même. Hein ? Vous voyez ça ? Ce serait corser un peu l'objection. Et corser l'objection, elle viendrait à ça, parce que c'est quand même... Oui ? Oui, c'est saint Paul qui le dit aussi, mais pas tout à fait de la même manière. Je prends Sainte Catherine parce qu'elle le dit de façon plus immédiate. voyez ? Parce que saint Paul, regardez le contexte, on voit très bien ce qu'il veut dire. Hein. Ça ne veut pas dire du tout le point de vue, si vous voulez, de la damnation. Ce n'est pas la damnation. J'accepte de tout endurer pour mes frères, j'accepte même la séparation. C'est comme on dira, on accepte de porter, si vous voulez, de fait dans sa vie, des souffrances ou une sécheresse spirituelle pour le salut de ses frères. Vous voyez ? J'accepte d'être séparé, damné, vous voyez, pour mes frères. Alors, comment le comprendre ? Regardons la troisième objection. La charité est-elle, dans la première, est-elle dit dans la première épître aux Corinthiens, ne cherche pas son intérêt. Or, celui dont nous recherchons le plus le bien est celui que nous aimons le plus. Par charité, l'homme ne s'aime donc pas lui-même plus que le prochain. Alors, ces paroles, la charité ne cherche pas son intérêt, signifie, selon saint Augustin, que la charité préfère le bien commun au bien propre. Or, pour tout être, le bien commun est plus aimable que son bien propre. C'est ainsi que pour la patrie, le bien du tout est plus aimable que le bien partiel qui est le sien, comme il a été dit plus haut. Oui. Or, pour tout être, le bien commun est plus aimable que son bien propre. C'est ainsi que pour la partie, le bien du tout est plus aimable que le bien partiel qui est le sien. Alors comprenons bien, ça c'est très vrai, c'est la fameuse chose que la partie aime plus le tout que lui-même, que elle-même. Ici, dans l'ordre surnaturel, il s'agit de la participation à la bonté de Dieu. Pas tout à fait la même chose. C'est la participation à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, parce que c'est une participation formelle à la bonté de Dieu, c'est quelque chose d'absolu. Et c'est vrai, il y a un absolu dans la charité. On ne peut pas dire que c'est une partie. On n'est pas partie. Dans l'ordre de la création, on est une partie. C'est vrai, dans l'ordre de la création, on est une partie dans notre être. Mais d'un point de vue surnaturel, on n'est plus seulement une partie. Dans l'ordre naturel, on pourrait dire que déjà avec l'esprit, une personne n'est plus une partie. Alors, il y a quelque chose d'absolu déjà dans le bien d'une personne. C'est pour ça qu'on ne peut pas sacrifier son bien personnel pour le bien commun. On ne peut pas sacrifier le bien personnel pour le bien commun. On doit comprendre que le bien commun, qui est au niveau, si vous voulez, temporel, est ordonné au bien spirituel. Et le bien spirituel est le seul absolu. Alors, revenons à cette question. Être anathème pour ses frères, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est-à-dire qu'on doit, je crois, que c'est comme ça qu'on doit le saisir, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on accepte d'être rejeté pour ses frères. On peut le comprendre, je crois, de cette manière. C'est que d'abord, on parle de la peine et non pas de la faute. J'ai jamais le droit de commettre une faute pour aider mon frère. C'est là-dessus que souligne saint Thomas. La peine, c'est différent. La peine, c'est différent. Parce que la peine n'est pas un mal qui soit le mal la plus fort, c'est le mal de faute. Hein. Le mal de peine est toujours relatif. Mais évidemment, quand il s'agit de la peine de la damnation éternelle, il s'agit d'un mal, d'une peine, mais d'une peine qui a quelque chose d'absolu. Alors, peut-on dire qu'on doit accepter la damnation éternelle pour le salut de ses frères ? Point de vue théologique. Oui, on place d'un point de vue théologique. Ou est-ce que c'est simplement une manière d'exprimer qu'on accepte tout pour le salut de ses frères ? Qu'on doit tout accepter pour le salut de ses frères. Mais qu'au sens rigoureux, on ne peut pas choisir la peine éternelle pour le salut de ses frères. C'est sûr. Vous ne pouvez pas accepter la peine éternelle pour dire « je souhaite la peine éternelle pour que Hitler soit sauvé ». Oui, je crois qu'on ne peut pas, au sens rigoureux, au point de vue de la charité. Ce qu'on peut accepter, c'est que, de fait, on endure des souffrances. Mais on ne peut pas accepter la peine éternelle, c'est-à-dire être séparé éternellement de Dieu, par rapport au salut de ses frères. Vous voyez, parce que ça retrouverait, parce que pour accepter la peine éternelle, il faut une faute. Il n'y a pas d'autre moyen. Autrement, c'est pas vraiment la peine éternelle. Vous voyez, je crois qu'il faut saisir cela de cette manière-là. Donc, c'est une manière de parler. Ce n'est pas pris d'une façon absolue. Vous ne pouvez pas, d'une façon absolue, accepter l'enfer pour sauver votre frère. C'est impossible. Alors, c'est une manière de parler pour exprimer qu'on est capable de tout supporter, même l'enfer si possible, voyez, même si c'était possible, pour le salut de ses frères. Mais je ne crois pas du tout que théologiquement, on puisse dire qu'on doit accepter l'enfer, parce qu'alors ce serait contraire à ce que représente cet ordo caritatis, de comprendre que, de fait, la charité qui m'unit à Dieu est plus proche que la charité qui m'unit au prochain. Vous voyez ? Si vous avez des questions, il faut les poser là-dessus. Parce que c'est important, ça, c'est une question très délicate, mais très importante au point de vue de la vie pratique. Vous voyez ?
Oui ? Du point de vue de la vie pratique, est-ce que Catherine de Sienne... Dans cette affirmation, vous avez une façon théologique. Non, c'était un élan de son cœur.
Oui, c'est un élan de son cœur.
Et donc, je me demande si
oui, mais un élan de son cœur.
Oui. Cet élan sur des bases d'une analyse scientifique.
Ah oui. Aucune mystique ne peut être en opposition vis-à-vis de la théologie scientifique. Souvent, nous tombons dans l'illusion. Il y a une doctrine de l'Église. Et la théologie scientifique a comme rôle de garder ça. Vous voyez, je dis bien que la théologie mystique va plus loin, heureusement, que la théologie scientifique. Mais elle ne peut pas être en opposition. Mais c'est deux choses différentes, n'est-ce pas ? Ou, voyez, la mystique va plus loin, c'est évident, c'est tout ce qu'on disait ce matin à propos de l'amour. L'amour va plus loin, et toute la théologie mystique est au niveau, justement, de l'amour. Alors, elle va plus loin que la théologie scientifique, mais la théologie mystique ne peut pas aller contre la théologie scientifique, qui est la doctrine de l'Église. Vous voyez ? Et pourquoi nous prenons saint Thomas ? C'est parce que l'Église maintient saint Thomas comme le docteur commun. Donc je ne peux pas aller délibérément contre cet enseignement qui nous est donné dans saint Thomas. Je peux de temps en temps dépasser, aller plus loin. Vous voyez ? Ça oui, tout à fait d'accord. C'est évident, saint Thomas n'est pas le dernier mot. Mais je ne peux pas aller contre. Surtout que c'est toute la tradition qui est là derrière. C'est pas saint Thomas, c'est pas simplement saint Thomas qui nous dit ça. C'est toute la tradition augustinienne qui la présente derrière, au point de vue de l'amour. Alors saint Thomas précise davantage, mais c'est toute la tradition augustinienne. Et c'est, je crois, cette argumentation qu'il donne qui est très importante. Parce que m'aimer moi-même, c'est m'aimer comme Dieu m'aime. C'est m'aimer comme Dieu m'aime. Or, m'aimer comme Dieu m'aime, c'est donc comprendre que je n'ai pas le droit de me mépriser d'une manière telle que je considère que je puis. Oui. Parce que ce serait souvent un mépris. C'est-à-dire, enfin, tout le monde, que j'aille en enfer pour sauver mes frères. Dans l'ordre de l'amour, mais, ouais, au point de vue profond, dans l'ordre de l'amour, quand on aime profondément quelqu'un, il y a une troisième personne qu'on veut à tout prix qu'il soit aimé de l'autre. Vous diriez, eh bien, traite-moi comme tu veux, sacrifie-moi comme tu veux. Au point de vue du corps, oui, au point de vue matériel, au point de vue présence sensible, au point de vue présence physique, très très bien. Tout à fait d'accord. Mais au point de vue spirituellement,
le lien qui nous unit à Dieu dans la charité est un lien d'éternité. C'est un lien d'amour tel que je ne peux pas le mépriser. Je dois au contraire le respecter dans la lumière même de l'amour de Dieu sur moi. Et donc je dois m'aimer moi-même en premier lieu et ensuite le prochain. Oui. Alors, je comprends très bien le langage de Catherine de Sienne, mais le langage de Catherine de Sienne peut impliquer des métaphores, peut impliquer un langage symbolique. On a le droit en théologie mystique, c'est justement ça le propre de la théologie mystique, c'est de pouvoir employer le symbole. Des fois, un langage symbolique, c'est toujours ambivalent. Oui. Le théologien de théologie scientifique précise justement où est le langage symbolique. Même pour l'écriture. Oui. Parce que dans l'écriture, hein, c'est le propre de l'écriture, l'écriture emploie toujours un langage symbolique. Mais ce langage symbolique est ou un langage qui implique des analogies propres, ou qui implique un symbolisme métaphorique. Vous voyez ? S'il n'y a pas la théologie scientifique, je ne peux pas par moi-même toujours préciser. Et je risquerai à ce moment-là de ne plus avoir, si vous voulez, un regard suffisamment net sur l'enseignement qui m'est donné dans la foi. Oui. C'est pas la théologie mystique, c'est pas la théologie scientifique qui mesure la foi. La foi, il faut bien comprendre, la foi mesure, mais c'est tout l'enseignement de l'Église. Le cardinal Ratzinger a dit des choses extraordinairement fortes quand il a parlé à Paris. Quand il a repris ce qui est du reste de la tradition de Dieu, vous ne pouvez pas considérer l'écriture comme la mesure de votre foi. Vous devez considérer l'enseignement actuel de l'Église. Oui. C'est l'enseignement actuel de l'Église qui est la mesure de notre foi. Et donc, ça correspond bien à ça, c'est que par rapport à l'écriture, il y a un langage symbolique, il y a un langage d'analogie propre qui fait que je ne peux pas par moi-même le discerner. C'est pour ça que l'Église maintient toujours la théologie. Et que l'Église veut maintenir la théologie. Autrement, l'Église dirait retourner à l'écriture et c'est suffisant. Vous voyez, la lettre suffit, Luther. Et au fond, il y a toujours une petite tendance à ça. Et c'est pour ça que le cardinal Ratzinger rappelle cette exigence que donne le Concile de Trente. Et que Vatican II l'avait dit aussi, les deux sources de la foi, l'écriture et la tradition. Et la tradition est la mesure dernière, c'est pas l'écriture. Parce que l'écriture est gardée par la tradition, et la tradition garde l'écriture. Et c'est l'enseignement actuel de l'Église qui est la mesure même de ma foi. Oui. Or, dans l'enseignement actuel de l'Église est impliquée la théologie. Oui. Alors je crois qu'ici, c'est pour ça que c'est intéressant ces choses-là, parce que c'est très important de bien comprendre le langage des mystiques, le langage de l'écriture, qui est symbolique. Ça c'est sûr, tout le langage est symbolique. Et la manière dont l'Église a compris, a saisi en profondeur, c'est pas pour le diminuer, mais en profondeur, le mystère qui était révélé. Oui. Alors, ce n'est pas la conclusion de saint Thomas qui est la mesure de ma foi. Ça, tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas ce que dit sainte Catherine qui est la mesure de ma foi. Non. La mesure de ma foi, c'est l'enseignement actuel de l'Église. Alors, je crois qu'ici, dans la lecture de saint Thomas que je donne, je crois qu'il y a deux choses à regarder. Il y a la précision de saint Thomas, et puis que saint Thomas exprime toute une tradition. Cette ordo caritatis, c'est toute une tradition que nous trouvons dans saint Augustin. Et c'est une tradition très ancienne dans l'Église. Ça a été tout de suite le point de vue de voir que parce qu'il y a deux préceptes et l'unité, il y a donc un ordre dans la charité. Et alors comme il y a deux, il y a trois, il faut donc saisir Dieu et le prochain, et moi, qui suis entre les deux. Voyez, je suis situé entre les deux. Parce que si je dois aimer le prochain d'un amour divin, c'est parce que j'aime Dieu d'un amour divin. Et en aimant Dieu d'un amour divin, je m'aime moi-même d'un amour divin. Je ne peux pas arriver à me séparer de Dieu dans la charité. C'est la réciprocité. C'est que dans la charité, il y a cette réciprocité. J'aime Dieu parce que je suis aimé de... J'aime Dieu pour lui-même, mais en même temps, je m'aime parce que Dieu m'aime. Donc, il y a cette réciprocité. Je ne peux donc pas comprendre le précepte de charité à l'égard de l'autre sans cette réciprocité. En disant, ah, moi, je vais avoir un purisme encore beaucoup plus grand. N'est-ce pas ? C'est aimer Dieu d'un amour tellement pur, je considère comme rien. Aimer le prochain d'un amour tellement pur que j'accepte même d'être damné. Vous voyez ? Alors quoi ? Est-ce que c'est encore la charité ? Ou est-ce que c'est une illusion, la charité ? Oui. Vous savez, c'est Brémond qui, dans la querelle du pur amour, a des petites remarques extrêmement jolies. Je vous l'ai déjà cité, je prends ce petit exemple, parce que ça, on le retient toute sa vie. Quand on a un Brémond qui a une finesse extraordinaire, quand il fait la spiritualité, quand il parle de cette fameuse querelle du pur amour, parce que c'est vieux, ça, hein, c'est vieux, la querelle du pur amour. Pouvoir aimer Dieu d'une manière telle qu'on se détruit soi-même. Aimer le prochain d'une manière telle qu'on se détruit soi-même. Non, c'est pas vrai. On doit aimer Dieu en comprenant que Dieu nous aime, et on doit aimer le prochain en comprenant que nous aimons le prochain parce que Dieu nous aime. On sera incapable d'aimer le prochain. Oui, c'est parce que je suis lié à Dieu que j'aime le prochain. Et c'est parce que je suis lié à Dieu de cette manière réciproque que j'aime le prochain. Et que je deviens moi-même source à l'égard du prochain. Mais pour pouvoir être source à l'égard du prochain, source d'amour à l'égard du prochain, il faut que je sois relié à Dieu de cette manière intime et réciproque. Alors à ce moment-là, je deviens source d'amour. Alors, Brémond dit, dans cette querelle du pur amour, vous savez, cette personne qui avait offert des cloches à son curé, alors elle voulait à tout prix que personne ne sache qui avait offert ces cloches. C'est très bien. Ne le dites pas, surtout pas dans votre prône, hein, ne dites pas qui l'a offert. Mais je vous en supplie qu'on inscrive mon nom dans la cloche pour que chaque fois que le tympan tape, il tape sur mon nom. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Ça, c'est la querelle du pur amour. Alors, on ne veut pas... On essaie que... Alors, c'est important, c'est difficile. C'est difficile parce que ces rapports entre la théologie mystique et la théologie scientifique, je crois, sont très importants pour ne pas accorder à la théologie scientifique trop d'importance. On tomberait dans la scolastique décadente. Vous voyez ? Considérer que seule la théologie scientifique, c'est la théologie. Tout le reste, c'est de la spiritualité. Non, c'est pas vrai. La théologie scientifique est une des modalités de la théologie. Et la théologie scientifique est ordonnée à une théologie mystique. Et la théologie mystique va beaucoup plus loin. Plus loin dans le sens de l'explicitation, puisqu'elle regarde le point de vue de l'amour. Vous voyez ? Donc elle va plus loin dans l'ordre de l'amour. Mais il n'y a pas d'opposition possible entre les deux. Parce que la doctrine demeure toujours. Or la théologie scientifique n'a pas d'autre but que de nous donner l'intelligence du message du Christ. De nous donner l'intelligence de la révélation. Pour qu'on aille le plus loin possible dans cette intelligence de la révélation, au service de la foi, c'est bien évident, et à l'intérieur de la foi. Mais c'est pour aller le plus loin possible de cette intelligence de la révélation. Et alors, c'est là où on touche l'aspect doctrinal. L'aspect doctrinal n'est pas l'aspect ultime. C'est la doctrine qui conduit à l'amour. Et l'aspect ultime, c'est l'amour. Alors, il faut bien comprendre que la théologie scientifique est ordonnée à la théologie mystique et que toute l'intelligibilité de la parole de Dieu est ordonnée à un secret d'amour. C'est cette chose très très belle de saint Thomas en disant « Verbum spirat amorem ». L'amour spire l'amour. Je veux dire, la parole, « Verbum spirat », la parole de Dieu conduit toujours à l'amour. Parce que la parole de Dieu est comme le Verbe qui spire l'amour. Et donc, toute parole divine, toute doctrine de l'Église conduit à l'amour. Et elle est pour l'amour, parce que Dieu est amour, Dieu est lumière et Dieu est amour. Toute parole. Et c'est là où on touche le sens dernier et ultime
Donc toute parole conduit à cet amour. Mais il ne faudrait pas, alors à cause de ça, voyez, dire « moi j'ai pas besoin de la doctrine ». Ah non. Je dirais, plus on reçoit des grâces d'illumination de Dieu, plus on a besoin de la doctrine. Vous voyez, regardez une Catherine de Sienne et une Thérèse d'Avila, comme elles avaient le souci extraordinaire d'être fidèles à la doctrine. Ça va même jusqu'à ce point que ça nous semble un peu curieux quand Catherine de Sienne dit « Il vaut mieux comme directeur spirituel, pour être vraiment l'instrument de Dieu auprès de nous, un théologien qu'un saint. Si ce saint n'est pas un théologien, il vaut mieux un théologien qu'un saint. » Nous dirions juste l'inverse. Bien évident. Et Thérèse d'Avila, elle peut le dire, parce qu'elle a tellement de grâce qu'elle n'a pas besoin du saint, elle a besoin du théologien. Là, c'est une complémentarité, je comprends très bien. Tandis que nous, n'étant pas assez saints, nous avons besoin du saint, évidemment, pour nous pousser un peu, pour nous aider. Mais c'est quand même quelque chose de très significatif. C'est que plus nous recevons des grâces de lumière, plus nous avons besoin de la doctrine. Ça, j'en suis persuadé. Plus on a... Pour que, de fait, l'imaginaire ne vienne pas corrompre ces grâces d'amour. Le grand adversaire à notre vie divine, c'est l'imaginaire qui risque de venir corrompre en nous ces grâces d'amour. Alors, pour que ces grâces d'amour restent toujours très limpides dans le souffle de l'Esprit Saint, ben, la doctrine est là. La théologie scientifique de saint Thomas, c'est une purification active. Ça, je crois qu'il faut bien le comprendre. C'est la taille du Père. C'est une purification active. Ce que disait une fois un dominicain canadien quand il faisait ses études au Solfoire, il y a très très longtemps, il disait oh, « c'est une purge ». Ouais, c'est une purge, c'est évident. C'est une purification. C'est une purification active, la théologie scientifique. C'est pour ça que la théologie scientifique n'est pas à mettre entre toutes les mains. Moi, je ne dirais pas à tout le monde de lire saint Thomas, non. Tandis qu'on peut dire à tout le monde de lire du sainte Catherine de Sienne. On peut dire à presque tout le monde de lire du sainte Thérèse. Les mystiques, on peut tous les lire. Tandis que la théologie scientifique de saint Thomas, attention. Si on n'a pas une vie spirituelle déjà, ça risque toujours de nous arrêter. Oui. Et si on n'a pas une formation intellectuelle pour nous aider, ça risque aussi de nous arrêter. Parce qu'on risque de dire, ou d'être séduit, de considérer que c'est magnifique, et alors on ramène tout à ça, ça devient qu'être terrible. Oui. Le thomisme décadent a fait ça, c'est évident. On a tout ramené la doctrine. Alors à ce moment-là, le théologien devient anti-mystique. Si le théologien est anti-mystique, vous comprenez, c'est effrayant. Parce que le théologien doit être gardien de la mystique. Mais le théologien doit toujours comprendre que la mystique doit aller plus loin, ça c'est sûr. Il doit aller plus loin que ce que dit le théologien. Mais il ne peut pas aller contre. Oui. 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 Oui, exactement. Dans le sens justement que Jésus veut préciser qu'il s'agit d'aimer le prochain dans sa propre lumière et à travers son cœur et son amour. Je dois aimer le prochain comme le Christ lui-même l'aime. Vous voyez ? Or, je ne peux aimer le prochain comme le Christ lui-même l'aime que si j'aime le Christ. Et en aimant le Christ, je m'aime. Vous voyez ? C'est pour ça que je dis, pour être source d'amour pour le prochain, il faut d'abord s'aimer. Cet amour du Christ. Oui. Alors, l'article suivant. L'homme doit-il aimer son prochain plus que son propre corps ? Ça a déjà été répondu. Hein. C'est facile à comprendre. C'est bien évident qu'il doit aimer son prochain plus que son propre corps. Alors, je vois simplement le corps de l'article, si vous voulez, on ne va pas s'attarder trop. Saint Augustin dit, nous devons aimer notre prochain plus que notre propre corps, plus que notre propre santé. Il est évident que la charité fraternelle, ça use notre santé. N'est-ce pas ? C'est bien évident. Alors, on doit aimer le prochain plus que sa propre santé. On doit accepter de faire la cuisine, vous voyez, au-delà de sa propre santé, et ainsi de suite. C'est ce qui est le plus pleinement aimable par la charité qui doit être le plus aimé par la charité, comme nous l'avons dit. Or, le motif de l'amour que nous devons avoir pour le prochain, qui est d'être associé avec nous dans la procession plénière de la béatitude, est un motif plus fort que la participation à la béatitude par rejaillissement. En quoi réside le motif d'aimer notre propre corps? Et c'est pourquoi, en ce qui intéresse le salut de son âme, nous devons aimer le prochain plus que notre propre corps. C'est toujours le même raisonnement, hein, à travers toute cette question. À travers toute cette question, c'est le fait de la participation de la bonté de Dieu. Le fait que...